France Musique.
France Musique. Les grands entretiens. Arnaud Merlin.
Je m'appelle Hugues Dufour. Je suis né le 28 septembre 1943 à Lyon. Et je suis compositeur. Et l'on me dit aussi philosophe.
Hugues Dufour, pendant de nombreuses années, vous avez été aussi en charge au Centre National de la Recherche Scientifique, le CNRS, et avec une double casquette de recherche en musique et en sciences. C'était un poste un peu taillé sur mesure pour vous.
À l'université, bon, je suis agrégé de philosophie. Puis j'étais assistant, maître assistant à l'université en philosophie. Je suis entré au CNRS en 72, j'étais détaché de l'université. Puis là, j'étais très bien chez les uns ou les autres, mais surtout et principalement chez Suzanne Bachelard, qui dirigeait l'unité d'histoire des sciences, de philosophie et d'histoire des sciences au CNRS. Par la suite, je crois que c'est le prix Charles Cros décerné à Saturne, c'était en
80 peut-être,
79, 80, quelque chose comme ça, qui a, je crois, ému le CNRS et la direction du CNRS, qui voyait d'une manière, on peut les comprendre, un peu perplexe, une double carrière se développer, alors qu'en principe, un fonctionnaire n'en fait qu'une. Donc, le directeur de l'époque m'a très obligeamment proposé de réunir mes compétences en une seule discipline qui était à créer au CNRS. Donc, j'ai créé un laboratoire qui est devenu ce qu'on appelle une UMR, essentiellement, principalement, d'histoire sociale de la musique. Mais ce laboratoire s'étendait également à toutes les formes de recherche musicale. Cette recherche musicale, il est évident qu'elle intègre, qu'elle réunit tous les aspects de la pensée, de la pratique universitaire. Il faut intégrer les sciences, l'informatique, il faut comprendre l'organologie, il faut comprendre l'histoire de la musique, ses fondements philosophiques, connaître l'Antiquité, les philosophies antiques, si possible, le grec ancien. Donc là, nous n'étions pas légion pour diriger ou mener une affaire pareille. Par la suite, donc, c'est-à-dire 10 ans après, le ministre m'a en gros confié la tâche de concevoir la maquette de ce qu'il comptait implanter en France, qui était les DEA, diplômes d'études approfondies. Le CNRS et le ministre de l'Éducation nationale voulaient globalement réformer les choses et l'enseignement de la pensée musicale, de la musicologie, de la recherche musicale. Et pour ce faire, il fallait un établissement pilote que personne ne puisse contester. C'est l'École normale supérieure. Par la suite, l'école des hautes études a bien voulu nous accueillir, ce qui était beaucoup plus normal, surtout compte tenu de l'impact international que cette formation a eu tout de suite. Donc, j'ai eu à l'école des hautes études, qui est seule habilitée à accueillir à ce point des étudiants étrangers, j'ai eu effectivement le monde entier. Dans la pratique, j'ai invité et j'ai bénéficié du concours de tous les chercheurs de l'IRCAM qui ont bien voulu et très généreusement prendre bien souvent en charge des étudiants plus spécialisés en informatique, qui ont bien voulu siéger dans les jurys, qui ont bien voulu lire. Enfin, le travail était de la part de l'IRCAM a été absolument considérable et même unique.
Au tout début des années 70, vous faites deux rencontres importantes pour ce qui est de développement de l'informatique musicale. D'une part, Jean-Claude Risset, compositeur français, et d'autre part, John Chowning.
Oui. Je voudrais quand même... Il y en a un qui, même si sur le tard, nous avons eu des rapports un peu plus orageux, mais... dont la présence et l'appui ont été fondamentaux pour moi, et c'est Boulez. Mmh. Et Boulez était le premier, a fait une lettre en ma faveur pour mon entrée au CNRS. Voilà, ça compte, vous savez. Et en un sens, c'était une façon de me faire entrer ou de faire entrer le CNRS, d'instituer... déjà, a priori, de très bons rapports entre le CNRS et l'IRCAM.
L'IRCAM, c'est l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique Musique. C'est un département du Centre Pompidou qui a été créé dans les années 70. Qu'est-ce qui vous a frappé chez Jean-Claude Risset et chez Chowning dans leur approche?
Je vais vous dire tout de suite, c'était pas frappé. L'évidence, c'était le génie. Ça ne se discute pas. Et pour des raisons différentes, parce que Risset avait été formé, si je me souviens bien, en physique quantique. Il m'a remis sa thèse, qui n'est pas encore publiée, mais extrêmement pointue, où il avait déjà toutes les idées qu'il va développer plus tard. Mais tout, et chose très importante, je suis à peu près le seul à l'avoir remarqué, les idées que Risset soutient donc avant d'être allé en Amérique sont les idées qu'il va soutenir pour le développement de l'informatique musicale. Mais ce ne sont donc pas des idées qu'il est allé pêcher aux États-Unis. Ce sont des idées qu'il est allé affiner et promouvoir aux États-Unis.
Avec Matt Matthews.
Voilà. Mais enfin, Matthews, Pierce, que j'ai connu, enfin je les ai tous connus plus tard, sont des gens qui ont toujours considéré Jean-Claude Risset comme une espèce de seigneur de la science, ce qu'il était. Il dominait tout, il avait fait la physique quantique, il avait fait il dominait toute l'électronique, les sciences pour l'ingénieur. Mais quand on parlait de physique des timbales, bon, il était capable d'aligner tout de suite les équations, etc. Quand il y avait un tout petit défaut dans une transmission, il réfléchissait 3 secondes. Ah oui, d'un point de vue théorique, ça doit être ça. Allez donc à tel endroit. Et bien sûr, c'était l'endroit qu'il fallait, où il fallait rétablir la connexion. Voilà ce qu'était Risset, plus des visions très, très amples. D'un point de vue strictement musical, il était pianiste. Il avait travaillé la composition de façon approfondie avec Jolivet. Il avait donc aussi une vision de l'orchestre. C'est lui qui a conçu, il n'y en a pas d'autre, hein, c'est lui qui a conçu le son de synthèse. Mais le son de synthèse, c'est une mutation dans l'histoire de la musique. Donc, quand Risset m'expose ses idées, j'étais renversé. C'est évident que c'était la mutation.
France Musique, les grands entretiens de Hugues Dufour.
Channing, c'était un autre type de génie. Channing était principalement musicien et est venu à l'informatique musicale. À la différence de Risset, qui avait un bagage scientifique absolument complet et une formation musicale également complète. Channing s'est lentement converti et il lui a fallu cette espèce de génie étrange qui l'a conduit à la modulation de fréquence qu'il m'a expliqué. Et la modulation de fréquence, c'était une façon d'appréhender toute l'informatique musicale de façon synoptique, intuitive, totalisante et différenciée. Et bon, qu'est-ce que c'est que la modulation de fréquence ? Du point de vue le plus théorique, la grande nouveauté, c'est que vous arrivez à multiplier entre elles des grandeurs physiques hétérogènes, choses qui ne sont pas possibles. Jusque-là, il faut la médiation du nombre. Et voilà ce qu'était Channing. Mais Channing n'est parvenu à tous ces systèmes que parce qu'il faisait de la musique. C'est l'homme qui concevait musicalement la physique et qui a su trouver les moyens physiques pour le traduire. Voilà ce qu'est, il est vivant, hein, Channing. Beaucoup, beaucoup plus tard, il m'a dit qu'il s'intéressait désormais aux bateaux et à la manière, aux techniques informatiques pour s'arranger qu'un bateau ne coule jamais. Voilà ce qu'est Channing.
On est il y a un demi-siècle, hein, c'est au début des années 70.
Oui.
À quoi ressemble l'informatique musicale ? Qu'est-ce que vous aviez dans les studios ?
Pas.
Vous travailliez avec quel type d'ordinateur ?
Quelle
machine existait ?
70, l'ordinateur n'existe pas, personne n'en a. Elle n'existe, l'informatique n'existe que chez les Américains. Et c'est une grande salle, et à côté, il y a une salle de refroidissement, ce qui fut les débuts de l'IRCAM, c'était comme ça. Il y avait le PDP-10 importé de la côte ouest des États-Unis, de Berkeley, de chez vous. Et bien entendu, ce qui est la pièce la plus importante, c'est la pièce de refroidissement. C'est ça qui compte. Et puis, il faut bien dire que tout est encore très, très, très rudimentaire. Vous ne pouvez pas imaginer, on fait des additions, des soustractions, ça n'en finit plus. Tout passe par le nombre et ce sont des calculs infinis pour des résultats modestes. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont modestes qu'ils ne sont pas absolument prometteurs. Tout le monde y a cru, il y avait raison d'y croire.
Mais vous avez compris dès ce moment-là, dès 71, 72, 73, qu'on allait changer de paradigme,
non,
on pourrait
non,
dire.
Non, j'ai compris même avant, mais ça, c'est pas le mérite n'est pas le mien. Non, non. C'est Dagonier, qui était mon maître à l'époque, directeur de thèse, c'est lui qui a repéré le premier article consacré à Risset en 68, 69, 70. J'étais encore à Lyon. Et il attire mon attention sur cet article. Il dit, dis donc, c'est ça, regarde ça, c'est entièrement nouveau, ça devrait t'intéresser. Je lis l'article, je dis, ben voilà, l'avenir est là, bon, mais nous étions, je n'avais pas encore rencontré Risset. Je rencontre Risset plus tard, 2 ans plus tard, nous sympathisons, voilà, et ça corroborait évidemment, il m'a expliqué, il a eu l'extrême générosité un peu plus tard de m'offrir, fin des années 70, la totalité de ses écrits. Donc voilà pourquoi je connais aussi si bien la matière. Quant à Channing, il m'a dit une chose, je lui ai dit, bah, écoute, est-ce que je ne ferais pas mieux alors de laisser tout tomber, l'orchestre, bon, et de faire de l'informatique. Il me dit, mais tu plaisantes, tu trouveras toujours un informaticien beaucoup plus fort que toi, et en plus, c'est pas ta voix. En revanche, étudie de très près les systèmes de représentation que donne l'ordinateur, parce que c'est ça qui change les structures fondamentales de la musique, et donc qui changera l'orchestre, ce que j'ai fait.
D'autres compositeurs à la même époque se posent des questions relativement proches, même si elles se posent différemment pour chacun d'entre vous. Ce sont les compositeurs et les interprètes qui se sont réunis au sein d'un ensemble qui s'appelle l'Itinéraire. C'est à peu près la même époque.
À peu près en 75, oui, c'était l'autre. C'est l'expérience qui, au fond, a pris le relais, en quelque sorte. Erwan se terminait et les visions que j'avais étaient très très proches de celles de Griset, Muraille et Lévinas, et ils m'ont proposé en 75 d'intégrer les rejoindre.
L'itinéraire, il y avait Tristan Muraille, Roger Tessier, Gérard Griset, et puis Michael Lévinas, et vous ensuite.
Et moi ensuite. Et le fondateur, c'est lui qui s'est occupé de tout, de la fondation, et fut Roger Tessier. Et Tessier était très lié, directement lié à Marcel Landowski, et donc qui a encouragé et financé le groupe, car il y voyait d'autres possibilités musicales qui n'étaient pas celles de Dirkheim, mais qui n'étaient pas non plus celles de Landowski lui-même.
Mais le domaine musical allait vers sa fin, donc il y avait une nouvelle génération.
En fait, il voulait une autre chose, et les musiciens de l'itinéraire nous disaient, écoutez, faites ce que vous voulez, mais trouvez-nous une musique qui ne ressemble absolument pas à ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, on en a marre de jouer du néo-sériel, etc. Bon, on veut autre chose. Et alors, trouver. Voilà comment ça s'est passé. Donc,
il y a l'instrument et puis il y a l'informatique à côté. Et vous fondez un tout petit peu plus tard un collectif de recherche instrumentale et de synthèse sonore, notamment avec Tristan Murat, je crois aussi avec Alain Bancard, ce qu'on appelle le CRIS à l'époque. Ça, c'est un peu une sorte de deuxième génération de l'itinéraire.
Oui, mais ça, c'est... La première grande opération a été celle de Saturne. Et c'est avec Saturne que nous avons réuni tous ces instruments de l'itinéraire.
Saturne, c'est 1979.
Donc, le gros effort a été Saturne. C'était un gigantesque effort, un considérable investissement collectif. Pas simplement financier, c'est toutes les ressources ont été mobilisées et la direction de la musique a suivi de très près les étapes de ces nouveaux équipements.
Mais c'était un peu l'équipement des groupes de pop de l'époque.
C'était
Pink Floyd, en fait.
C'était l'équipement des Pink Floyd. Je suis allé voir plus tard, vous savez, à l'expo des Pink Floyd
à la Cité de la Musique à Paris.
Cité de la Musique. J'ai tout revérifié et il ne nous manquait que le prophète, ce synthétiseur magique, que je n'ai pas eu. Et je dirais même que la petite avancée que nous avons apportée, supériorité, que j'avais tout conçu sur le mode d'un ordinateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que j'avais tout conçu comme un ensemble modulaire, c'est-à-dire que tout instrument pouvait conduire et interférer avec les autres, ou conduire les autres, ou donner des sons résultants, ou piloter des sons résultants. Par conséquent, aucun instrument n'était appelé, sauf les ondes Martello parfois, à jouer purement en soliste. Il était immédiatement... mêlé intrinsèquement aux autres.
Saturne, c'est de la lutherie électronique, des percussions et des vents.
Ah oui, les vents.
Oui. Ça, c'est quelque chose qui va prendre de l'importance dans les années qui vont suivre. Mais c'est peut-être c'est la pièce de vous qui réunit le plus ces éléments avec la lutherie électronique et des instruments qui sont utilisés aussi dans la musique populaire. Et ça a frappé à l'époque, ça.
Oui, et c'était en tout cas... C'était très conscient dans mon esprit. Je voulais non pas faire des concerts pop, mais je voulais rejoindre une certaine sensibilité, toucher une certaine sensibilité issue de la musique populaire. Je dois d'ailleurs beaucoup à la musique populaire puisque je lui ai emprunté toute sa technologie la plus pointue.
Avec l'aide d'un guitariste qui s'appelle Claude Pavie.
Et alors, qui a été véritablement mon maître, mon mentor en la matière, car Claude Pavie était un très brillant guitariste. Il avait, pour finir, été le guitariste d'Yves Montand dans sa dernière tournée au Japon. Claude était également ingénieur en électronique, donc connaissait parfaitement les rouages rationnels. Claude m'a véritablement instruit et il a piloté et même il m'a ouvert tout un champ de possibles techniques qui sont devenues des possibles imaginaires. Et je me souviens de séances où je ne sais plus qui composait, qui jouait, car nous composions ensemble. Donc cette conception était lente et s'est faite très très largement sous la houlette de Claude Pavie.
C'est avec cet extrait de Saturne, Duc Dufour, par l'ensemble L'Itinéraire, dirigé par Peter Rudwösch, que se referme le troisième épisode des Grands Entretiens Duc Dufour, proposé par Arnaud Merlin et réalisé par Françoise Cordet. Une série disponible en podcast sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.